le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 24 janvier. Bonjour Marion Lourd.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, il nous laisse ses silhouettes de femmes robots aux épaules spectaculaires et un sillage de parfums chocolatés. Le couturier Thierry Mugler est mort hier à 63 ans. Retour dans un instant sur son parcours après les autres titres, Marion.
Les jeunes retroussent leurs manches, le pass sanitaire devient pass vaccinal pour les plus de 16 ans, afflux de candidats dans les centres de vaccination. À la une aussi, le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations des électeurs. Selon notre sondage France Inter, on négocie ferme sur les salaires, exemple dans l'agroalimentaire. Et puis démarrer votre JT par la météo, le finir par un fait divers. Le journal télé à la carte, c'est ce que propose la chaîne TF1 depuis ce matin.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Mais ce sera qui cette année? Suspense maximal avant de savoir qui sera le président du jury du livre Inter. Réponse à 7h50 avec la responsable de cet événement France Interien, Eva Bétan, qui sera avec nous et qui sera avec le ou la nouvelle présidente. Allez, je vous donne un indice, Nicolas, c'est une femme.
C'est bien, à tout à l'heure. 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. De lui, on retiendra le corset de Madonna, les épaulettes triomphantes, presque triangulaires, le col Mao de Jack Lang, ministre de la Culture, et un flacon violet en forme d'étoile aux effluves de praline. Le couturier Thierry Mugler est mort hier à 73 ans, de mort naturelle, précise son attaché de presse. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les silhouettes signées Mugler ont marqué les années 80 et 90.
Oui Marion, la femme Mugler avait les épaules larges, un décolleté plongeant, une taille corsetée, une silhouette très structurée, très années 80, portée par des femmes puissantes, dirait-on aujourd'hui. Diana Ross, Jerry Hall, Kim Kardashian, une élégance sophistiquée qui exacerbe les formes. Ma mesure, c'est la démesure, disait-il. Et poussant sa vision jusqu'à son paroxysme, il avait présenté pour les 20 ans de sa marque en 1995 la femme robot, une vision qu'il a rencontrée en octobre dernier dans l'émission Quotidien.
Ah, la femme robot, oui. L'idée du robot, c'est que la vie, la féminité, passe malgré tout à travers toutes ces structures de métal. Donc c'est un hommage à la vie, à la femme, oui, et c'est un peu une sculpture de Picasso.
Des silhouettes faites pour des défilés grandioses, des shows flamboyants avec des podiums de 35 mètres et sex machine à fond. Lui qui se disait inspiré par la danse, sa première vocation, engagé à 14 ans dans le corps de ballet de l'Opéra de Strasbourg, sa ville d'origine. Thierry Mugler arrive à Paris à 20 ans, crée ses premiers vêtements, lance sa marque avec les succès que l'on connaît, le col Mao de Jack Lang et le parfum Angel. Après avoir fait ses adieux au monde de la mode au début des années 2000, il était d'ailleurs retourné à ses premières amours en créant une revue dans un cabaret parisien, les Mugler Folies.
Et pour revoir les plus belles tenues du créateur, vous pouvez visiter l'expo Thierry Mugler, couturissime au Musée des Arts Déco à Paris.
Il est 7h03, le pass sanitaire, Marion, devient pass vaccinal aujourd'hui.
Le principal outil anti-Covid du gouvernement se transforme pour les plus de 16 ans. Rien de spécial à faire si vous avez un schéma vaccinal complet. Pour les autres, le sésame est accessible avec une première dose assortie d'un test et sous condition d'effectuer la deuxième injection dans le mois qui suit. Cette mesure est pensée par la majorité pour accélérer les vaccinations et ça marche. Le nombre de Français venus tendre le bras pour la première fois a bondi de 50% entre mi-décembre et mi-janvier. Illustration à Vaux-en-Velin, près de Lyon, Mathilde Imberti.
Je vous laisse vous installer.
Ouvert 7 jours sur 7, le centre assure 4000 rendez-vous par semaine. Il reçoit de plus en plus de jeunes réticents jusqu'ici.
Non, pas trop motivé du tout, même. Je sais pas, c'est... se faire piqué, je faisais des tests PCR et là je trouvais ça plus intéressant d'aller se faire vacciner.
On ne pourra plus avoir le pass sanitaire du coup et je vois de plus en plus de cas qui contractent le Covid et je me dis que ce serait beaucoup plus sérieux de ma part de me faire vacciner.
Détendez votre bras.
Voilà. Le docteur Mokhtaria Alikada Arioua coordonne l'activité et pour ces jeunes vaccinés, elle a dupe Pfizer.
On est l'une des villes qui est les moins vaccinées de la métropole. Hein, avec... Et donc l'agence régionale de santé nous donne des doses de Pfizer en quantité. Donc on a de la place.
Les premières doses représentent 40% des injections à Vaux-en-Velin. Avec le pass vaccinal, on s'approche d'une obligation, relève Mohamed Zabar, un des infirmiers libéraux en renfort.
Plus qu'inciter, ça les oblige à venir se faire vacciner. Du coup, on essaye de les rassurer un peu en leur disant que c'est mieux que ça soit pour eux ou pour leur famille, leurs proches. Mais il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils regrettent ce pass vaccinal, qu'ils n'ont pas le choix et que c'est pour ça qu'ils viennent.
Le centre devait fermer fin mars. Il sera certainement maintenu pour vacciner tous ceux qui souffrent du Covid en ce moment et ne peuvent pas recevoir leur dose. Vaux-en-Velin, Mathilde Amerti, France Inter.
Passe sanitaire, mode d'emploi, c'est un article à lire sur notre site franceinter.fr. Restrictions et obligations perdurent, donc plus ou moins incontestées selon les pays. Chez nous, le député LREM Romain Gros vient de porter plainte à Perpignan après avoir été pris à partie et insulté samedi par des manifestants anti-pass. Casse et heurts spectaculaires en Belgique hier en marge d'un cortège anti-pass de 50 000 personnes. En Allemagne, c'est la possible obligation vaccinale à venir qui est visée. Le nouveau chancelier espère avoir le soutien de la coalition pour l'instaurer. Et les opposants ont une toute autre méthode pour la dénoncer. Ils organisent des promenades comme celle-ci à Brandis en Saxe, suivie par le correspondant de France Inter, Ludovic Piétenu.
Pas de banderole, pas de slogan, pas un bruit dans la nuit froide. Sur la place du village, quand les cloches de l'église sonnent 19h, les personnes rassemblées par petits groupes s'agglutinent les unes derrière les autres pour former dans le calme, sur le trottoir, un long cortège. C'est le début de la promenade et comme beaucoup d'autres, Susanna en profite pour sortir son chien et ça lui fait du bien.
Nous sommes bafoués, niés, diffamés. Pour moi, cette marche, c'est devenu un bienfait, une satisfaction, c'est même un besoin.
Le nombre de ces promenades ne cesse d'augmenter. Le projet de rendre la vaccination obligatoire rassemble contre lui des gens d'âge très différents, de tous horizons. Des non-vaccinés comme Susanna et des vaccinés comme Thomas.
Je ne me réjouirai jamais que des gens soient obligés de se faire vacciner.
C'est vraiment cet argument qui revient le plus souvent, comme chez cet homme, qui défend sa liberté totale.
Je vis ma vie et personne ne peut décider pour moi. Ça m'est égal ce qui est décidé au niveau politique. Je continue quand même mon chemin.
À partir du 15 mars, la vaccination deviendra obligatoire pour les personnels soignants et les employés des hôpitaux et des maisons de retraite. Ce n'est pas avant fin mars que cette obligation pourrait être élargie, soit à d'autres groupes, soit à tous, à partir de 18 ans. Brandis, Ludovic Piétenu, France Inter.
À l'étranger, encore la confusion règne ce matin au Burkina Faso. Mutinerie dans plusieurs casernes et tirs hier près de la résidence du président. Nous y serons dans le journal de 7h30 sur Inter.
Il est 7h07 en France. Marion, la primaire populaire revendique une première victoire.
Les organisateurs de ce scrutin visant à rassembler la gauche affichent 467 000 inscrits après la clôture hier soir, bien plus qu'aux primaires écologistes et LR. N'empêche, la démarche reste contestée puisqu'il s'agit de classer par ordre de préférence les principaux candidats à gauche sans l'aval de la plupart des concernés. France Inter vous propose ce matin un gros plan sur ce mouvement. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous avez suivi cette initiative démarrée en 2020 au début de l'épidémie de Covid. Comment est-elle née ?
Oui, c'est une conséquence inattendue du confinement. Au printemps 2020, Samuel Gjibowski, enseignant à Sciences Po, fondateur d'une association de dialogue interreligieux, passe la majeure partie de son temps enfermé chez lui et participe à des forums, des rassemblements d'activistes sur Internet. Mathilde Imer, elle, cherche un moyen de poursuivre l'action de la Convention citoyenne pour le climat qu'elle a contribué à créer. Et autour d'eux se rassemblent des activistes comme Kevin Vacher, militant contre le mal-logement, des personnalités issues du monde associatif, des entrepreneurs sociaux comme Sarah Durieux, ancienne directrice de Change.org, ou Eva Sadoun, fondatrice d'une plateforme d'investissement dans des entreprises à impact social et environnemental. Reste à trouver des financements, des soutiens. Olivier Legrain, ancien industriel reconverti dans le social, prête 50 000 euros, en donne 50 000 autres, rejoint par d'autres plus petits donateurs. L'association 2022 ou jamais est lancée en mars 2021 et commence à travailler sur un socle commun pour regrouper l'ensemble des candidats.
Alors impossible Antoine de savoir qui précisément est inscrit, mais a-t-on une idée de ceux qui vont voter, leur parti, leur préférence ?
Une certitude, il y a parmi eux les soutiens de Christiane Taubira, puisqu'elle est la seule à s'appuyer sur le processus. Pour le reste, c'est plus flou. Au PS, les partisans d'Anne Hidalgo, qui se sont inscrits avant que la maire de Paris ne rejette finalement cette idée de primaire, pourraient aussi voter. Les électeurs de la France insoumise, eux, risquent d'afficher leur indifférence. C'est moins clair pour les écologistes, inscrits massivement malgré l'opposition de Yannick Jadot au processus, expliquent plusieurs responsables de groupes locaux. Mais tous le disent, tout parti confondu, il y a probablement une surreprésentation des jeunes, les 18-30 ans.
Antoine Gignot, service politique de France Inter. Les participants voteront entre jeudi et dimanche pour désigner leur préféré parmi les 7 candidats. Pour cette primaire et pour la présidentielle le 10 avril, quels grands thèmes vont guider notre vote ? Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Conclusion de l'enquête Ipsos Sopra Steria pour France Inter aujourd'hui. Le social est la crise à résoudre en priorité pour 42% des interrogés. Le pouvoir d'achat sur fond de flambée des prix et la journée de mobilisation de jeudi à l'horizon. Voilà qui anime les négociations salariales en cours dans plusieurs secteurs. L'agroalimentaire, par exemple. Accord trouvé pour la filière lait et viande, mais Kathleen Comte, ça coince côté volaille.
Dans ce secteur, pas d'accord sur les salaires depuis 2 ans. Les syndicats étaient donc impatients, mais les propositions faites par le patronat n'ont pas convaincu tout le monde. Une rémunération à peine plus élevée qu'un SMIC, puis une augmentation de 5 euros par échelon pour les premiers salaires. La CGT dit non, la CFDT réfléchit. Seule la CGC et FO sont pour. Patricia Drevon, secrétaire fédérale des industries de la volaille pour le syndicat FGTA-FO.
Après 2 ans sans signature, je pense que c'était indispensable de retrouver un accord. Ce n'était pas à la hauteur de nos demandes, mais on a quand même signé l'accord en considérant que c'était un compromis, quoi.
Un compromis obtenu sous la contrainte, selon la secrétaire fédérale.
Des négos un petit peu compliqués. Il a fallu beaucoup bousculer pour arriver à obtenir déjà une date. On leur a beaucoup mis la pression. Ils voulaient éviter un arbitrage ministériel, d'être convoqués devant le ministère. Du coup, ils ont fait un effort qu'ils n'ont pas fait depuis très très longtemps, quand même.
Un effort indispensable pour Patricia Drevon, qui pourrait rendre le secteur plus attractif.
Ils ont énormément de mal à recruter, avec des horaires qui sont parfois avec des amplitudes assez élevées, surtout en période de fête, et en sachant plus que les industries de la volaille ont la grille de salaire la plus basse de l'agroalimentaire.
Pour l'heure, pas d'accord signé, donc tous les regards sont tournés vers la CFDT, le syndicat majoritaire dans la branche doit se prononcer aujourd'hui.
La CFDT, son numéro 1, Laurent Berger, invité de France Inter à 8h20. Les organisations patronales, elles, ne font pas de commentaires pour l'instant. Eux réclament une meilleure gestion des fins de carrière et des primes. Les aiguilleurs ferroviaires de Nouvelle-Aquitaine sont en grève aujourd'hui. 85% des TGV sont annulés dans le sud-ouest. En tennis, la Française Alizé Cornet en quart de finale de l'Open d'Australie. La 61e mondiale a battu la numéro 15, Simona Halep, il y a quelques instants. Et puis si vous avez toujours rêvé de porter la casquette de rédacteur en chef, c'est possible. Sur TF1, dès aujourd'hui, la chaîne lance un journal télé personnalisable, système qui vous permet en clair de prendre les commandes de votre 20h, Alexandra Hakoun.
Commencez par un sujet sur le sport, enchaîné avec la météo, puis l'international pour finir sur un sujet sur Marseille par exemple, en laissant de côté ce qui vous intéresse le moins dans l'actualité. Pour cela, il suffit de se rendre sur TF1 Info, de créer gratuitement un compte et à côté de l'espace qui permet d'accéder à tout ce que produisent les rédactions de TF1 et LCI, de cliquer sur l'onglet pour vous, un menu de 25 thématiques où il ne reste plus qu'à choisir ses préférences, y compris locales, façon inédite, explique Olivier Ravanello, directeur de l'info digitale de TF1, de lutter contre une surabondance qui finit par noyer l'utilisateur.
Les gens aujourd'hui sur le digital ne cherchent pas plus d'infos, mais ils cherchent une meilleure info. Donc notre objectif, c'était de leur proposer un lieu où cette information est sélectionnée, triée en fonction des centres d'intérêt, de ce qui leur parle vraiment dans leur vie quotidienne et en fonction de l'actualité qui se passe autour d'eux, ce qui permet aussi à TF1 sur le digital de se positionner sur l'information locale.
Une sorte de playlist en somme, comme sur les sites de streaming musical, qui ne devrait pas pour autant enfermer l'utilisateur dans une bulle.
Non, parce qu'à tout moment, vous pouvez aller dans l'espace où il y a toute l'information et puis surtout, vous avez un algorithme qui va regarder ce que vous lisez par ailleurs sur le site et qui va vous proposer des sujets qui aujourd'hui vous ont un peu intéressé.
Une technologie innovante qui permettra à SPRTF1 de rajeunir son audience sur le numérique.
Et pour rester jeune, mieux vaut écouter la radio, hein, Nicolas.
Évidemment, c'est une jouvence. Merci Marion Lourd. Dans 3 minutes, le zoom sur Batibot, le robot des profondeurs.